Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman d'Yves Tanré, présenté par son fidèle chroniqueur Frédéric Gournet, auteur de Métaphysique du rock. Dans ce numéro de La vie est un roman, nous recevons Yannick Hanel, écrivain reconnu pour son cercle, son Jean Karski et son trésorier payeur, entre autres, et depuis 2 ans maintenant, directeur d'une revue littéraire d'exception, dénommée Aventure, avec un S, et d'une collection du même nom chez Gallimard, d'où sont sortis, déjà, Les mouvements de l'armée rouge en 1945 de Julien de Kerviller, La matière humaine de John Jefferson Selve, La longue vie de Valentin Ray, et tout dernièrement, Adrien Borel, de Mathilde Girard. Valentin Ray et Mathilde Girard, que nous recevons également aujourd'hui pour nous parler de leur livre et du numéro 5 de la revue Aventure, à laquelle ils ont collaboré avec de nombreux autres auteurs. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Bonjour Valentin.
Bonjour.
Bonjour Yannick.
Bonjour.
Yannick Hanel, 2 ans d'aventure. Il y a pour le moment 5 numéros de la revue et 5 livres. Alors les aventures ne font que commencer?
Ah ben j'espère. Enfin, elles nous ont précédés. Et il s'agit en même temps que d'inventer un nouveau rapport avec le langage. Il s'agit aussi d'entendre ce qui s'est fait avant et d'essayer de soulever quelque chose, enfin, d'essayer de soulever cette chape de plomb politico-merdique qui nous entoure et qui rêve de sacrifier le langage. Voilà.
Alors le numéro 5 de la revue commence, enfin après un entretien vers Pierre Michon et Jawoh Etienne, sur une longue discussion entre John Jefferson Selve, auteur de La matière humaine, et de Valentin Ray, auteur de La longue vie. Alors a priori ce sont 2 romans que tout oppose, hein. L'un est désabusé, désenchanté, pour ne pas dire cynique ou nihiliste, et l'autre est porté par une formidable espérance. Et pourtant, les 2 écrivains partagent de nombreux points communs.
Oui, ce sont 2 livres qui ont paru dans la collection Aventure quasiment de manière simultanée, enfin, il y a quelques mois déjà, La matière humaine de John Jefferson Selve et La longue vie de Valentin Ray, ici présent. Mais je trouve que ce qui les anime, enfin, c'est un désir de réactiver quelque chose dans le langage qui s'oppose justement au nihilisme. Je ne crois pas que le livre de Jefferson Selve soit nihiliste. C'est une description du nihilisme, mais il y a un sursaut au fond. On ne peut pas se contenter du réel tel qu'il nous est donné et de son commentaire permanent par la société. Il y a évidemment autre chose, quelque chose d'irréductible. Voilà. Et les écrivains que j'aime, les écrivaines que j'aime, que j'essaye de publier, enfin voilà, ce cœur battant un peu sauvage, comme dirait l'autre Hamon ou Isidore Ducasse au début des poésies, il dévore la cervelle d'un jaguar. Quand il dit ça à propos de Shakespeare, il dit quand j'ouvre Shakespeare, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de dévorer la cervelle d'un jaguar. Ça peut se faire de manière très calme, mais je crois qu'il s'agit de rencontrer la dimension intérieure du langage qui est irréductible. Il y a cette idée. Je ne sais pas ce qu'en pensent Valentin et Mathilde, mais vous allez leur demander. Mais moi qui m'anime depuis l'enfance, au fond, qu'il y a en nous une part, en chacun de nous, de manière très modeste, parfois infime, une part qui échappe à la société, que personne n'aura jamais. Nos parents ne nous ont pas eus. Ils croient nous avoir eus. Je veux dire nous avoir enfantés. Mais il y a une part totalement, peut-être indemne, en tous les cas électrique, sauvage, qui s'exprime d'une manière ou d'une autre, ou parfois qui ne s'exprime pas. Mais cette part, personne jamais ne l'aura. Parfois, nous-mêmes, on ne l'a pas. Et la littérature, c'est un moyen de rejoindre cette part tout à fait extravagante, sublime. Enfin, le mot sublime est un peu... Je pourrais dire, à l'oral, c'est difficile de raturer, je mettrai un autre mot. Désirable, voilà. La part désirable.
Valentin, vous avez lu évidemment le bouquin de John.
Oui.
Et vous avez vu tout de suite les points de connexion, de correspondance, de rencontre?
Ah, il y a beaucoup de points de connexion, oui, parce que on traverse l'époque. À travers le langage, c'est une possibilité de rester sauf, indemne face à l'époque. Donc, l'époque s'imposant à tous, les points de connexion sont nombreux. Hein. Yannick parlait de une possibilité de rejoindre quelque chose de sauf à l'intérieur du langage. Aujourd'hui, mais ça fait déjà un petit moment, je dirais peut-être depuis la fin du 19e siècle, la société prétend tout coloniser, que ce soit évidemment sur le plan spatial, s'étendre à l'entièreté de la planète, il y a eu 2 mondialisations, mais aussi sur le plan de l'intime, sur le plan du psychique, du spirituel, de sorte qu'on soit totalement géré, comptabilisé, chacun à son adresse. Mais le langage, justement, il y a une porte dérobée à l'intérieur. Et c'est tout l'intérêt de la littérature, parce que si on cherche à travers le langage, et grâce à la littérature, cette porte dérobée, ben, il arrive qu'on la trouve.
Alors le premier livre, celui de John, évoque la drogue, la fuite hors du temps qu'elle permet. Votre livre évoque la littérature, le transhumanisme et la mystique qui, eux aussi, cherchent à échapper au temps qui passe. N'y a-t-il pas derrière tout ça un ressentiment contre le temps et son « il était » comme le disait Nietzsche? Je vais commencer par poser la question à Yannick et ensuite je vous la reposerai.
Oui, bien sûr.
Alors dans cette phrase, dans ce diagnostic de Nietzsche, il s'agit de définir la vengeance. Mais je ne crois pas que la littérature se venge de l'époque. Au contraire, l'époque ne cesse de se venger contre le temps. La littérature, la poésie, le chant, tout ce qu'on veut, est une manière de ne pas tenir compte de ce face-à-face, mais d'essayer de le déplacer, d'être à côté, d'être je ne sais où. Enfin. Vous avez raison, il s'agit d'une confrontation, d'une manière ou d'une autre, avec le temps. Dans le livre de John Jefferson Selve, je crois que c'est la première fois dans la littérature française, je le dis comme ça, avec tranquillité, qu'on raconte ce qu'il en est de la circulation de la cocaïne, a fortiori dans les milieux bien élevés, n'est-ce pas, dans le milieu culturel, dans les milieux où on lit des livres. Et ça raconte non seulement l'emprise, mais également ça dénude une démocratisation de l'illicite. Ça, comme vous le savez, il suffit d'ouvrir son téléphone, vous commandez de la drogue comme vous commanderiez une pizza. Et la question des addictions est politique, et le livre de John Jefferson Self parle de ça. Je crois que les addictions sont la vengeance du temps contre lui-même. La littérature essaye, enfin, je ne peux pas parler de lui à sa place, mais quand même, finalement, je le fais. je pense que c'est un degré de plus, c'est-à-dire de prendre en compte cette aliénation et d'essayer peut-être de la retourner. Et voilà, le livre de Valentin porte explicitement sur l'idée que le temps se démultiplie, enfin, et qu'on peut être le contemporain, évidemment, là, d'un prophète chrétien des premiers temps, mais aussi peut-être contemporain de soi-même, ce qui est déjà énorme.
Valentin, je vous avais déjà posé la question quand vous êtes venu la dernière fois. Vous pensez donc que la littérature, c'est un moyen d'échapper à la vengeance contre le temps ?
Oui, la phrase de Nietzsche, elle s'applique précisément au ressentiment. Et il s'agit justement d'être libre à l'intérieur de son cœur. Si on est projeté dans le passé, uniquement corseté à cause du passé, évidemment, puisque le temps file, il est impossible d'y échapper et le ressentiment ne peut que croître. Dans la longue vie, en fait, j'essaye de mettre tout un dispositif qui permet de faire ressentir au lecteur la simultanéité des temps. En physique, hein, c'est quelque chose de très admis, toute la théorie de la relativité générale le stipule. Les temps, en fait, sont coextensifs. L'univers forme un bloc et tous les temps sont simultanés. Donc, il y aura une illusion à vivre le temps de façon linéaire, bien que nous vivons, nous naissons, nous vivons, nous mourons. Mais d'une certaine manière, en tout cas du point de vue mystique aussi, mais du point de vue de la physique, le temps est donné ensemble, en même temps. Et donc l'idée du ressentiment est absurde, puisque pourquoi se concentrer sur un unique moment du temps ? Il faut essayer au contraire, à travers justement une vie ouverte, que le langage, si on l'apprivoise, permet de rejoindre, d'entrer dans cette simultanéité des temps.
La littérature peut-elle nous sauver du désastre en cours ? Valentin Rey.
Mais je le crois profondément, oui. Nous, alors peut-être qu'il faudrait sortir du pur collectif, c'est-à-dire qu'avant d'être nous, il faut peut-être essayer de se trouver soi, et de là nous formerons quelque chose qui ressemble à un nous. Mais la littérature, elle est cette odyssée à l'intérieur de soi-même, et donc à travers l'histoire qu'on le reçoit, à travers l'histoire des autres, l'histoire de notre langue, la possibilité de se trouver, de coïncider avec son nom. C'est très important. Dans la pensée juive, par exemple, il y a une belle histoire. On demande, c'est un, un racide qui monte au ciel et il se lamente en fait. Il dit « Ah mais j'aurais dû être plus pieux, j'aurais dû être plus assidu à l'étude, j'aurais dû faire comme Moïse. » Et on lui dit « Mais pourquoi tu n'as pas fait comme tu voulais le faire toi-même ? Pourquoi tu n'as pas ressemblé à ton nom en fait ?» C'est l'idée, habiter son nom.
Yannick,
même question. Oui. Je dirais que, je pensais en vous écoutant à ce qu'on appelle en politique, ce qu'on appelait, mais ce qu'on appelle toujours l'espérance. C'est comme ça que je conçois moi le salut qui est trop grand pour moi. Mais c'est Deleuze disait « Ah, la philosophie c'est beau, c'est trop grand pour moi ». Heureusement qu'il y a le trop grand. Je dirais que j'appellerais ça plutôt le salutaire. Je me sens très attiré, très travaillé, très animé par cette chose qui se dérobe sans cesse, qui est insaisissable, qui est le salutaire, qui est comme l'espérance en politique. Je ne vois pas pourquoi on devrait abandonner ce merveilleux désir. La société n'attend que ça, enfin, qu'on se mette à participer au sacrifice du langage, parce qu'après la mort de Dieu, après toutes sortes de morts annoncées, comme ça, c'est la mort du langage. Enfin, je ne sais pas si beaucoup de gens s'en rendent compte, mais il s'agit vraiment de ça. Enfin, ne serait-ce que par la binarité exaltée par toutes sortes de moyens techniques et par toutes sortes de réseaux, il s'agit pas seulement d'appauvrir le langage, mais c'est vraiment un sacrifice qui a lieu depuis, je dirais, 30, 40 ans, peut-être plus. Bref, le salutaire, c'est quelque chose qu'on ne fait pas que ressentir. C'est comme dans l'amour, en fait. Ça, c'est quelque chose qui nous précède. Si on continue à aimer, il me semble que, malgré tout, on continue à aimer des êtres, enfin, et à aimer, en ce qui me concerne aussi, des phrases, à aimer des livres, parce que j'y vois quelque chose qui brûle plus loin, enfin, qui fait signe vers quelque chose que je ne comprends sans doute pas. Donc oui, le salutaire, c'est, je crois, la grande chose. Maintenant, de savoir, et j'avais fait le précédent numéro d'Aventure porté là-dessus, est-ce que la littérature, au fond, a un impact ? Est-ce qu'elle change quelque chose dans le monde ? Je pense que c'est pas mesurable. De même qu'on n'est jamais sûr que quelqu'un nous aime et qu'on n'est jamais vraiment sûr qu'on l'aime. C'est pas mesurable, ça se passe dans une autre dimension, mais l'impact, l'influence de quelque chose comme la littérature, c'est-à-dire l'état du langage le plus libre, ça existe. Sinon, rien n'existe.
Mais nous sommes dans une époque où la drogue, la technique et l'autoritarisme, pour ne pas dire le fascisme, s'unissent pour transformer de fond en comble la création, si ce n'est de la détruire. Alors, là où ça serait politique, c'est si on renonce à la puissance pour défendre la poésie, là c'est déjà, on rentre dans le domaine du politique.
Oui, il y a une phrase de Nietzsche, décidément, enfin, qui dit, toute petite phrase qui dit « rougir de la puissance ». Je pense qu'il voulait dire, comment dire, son rire devant les pouvoirs. Et me vient encore une autre citation, comme ça, je peux réfléchir tandis que je vous dis la citation, de Mandelstam, que Pasolini aimait beaucoup, il disait « Avec le monde du pouvoir, je n'ai jamais eu que des rapports puérils. » Et il avait mis en exergue de Petrolio. Je souscris absolument. Non seulement j'y souscris, mais à cette phrase, « Avec le monde du pouvoir, je n'ai jamais eu que des rapports puérils. » Mais je pense qu'il l'a revendiqué, Pasolini, à savoir que ce n'est pas qu'on soit en défaut par rapport au monde du pouvoir, c'est qu'on est toujours déjà vaincu. Et donc, avoir des rapports puérils, c'est ce que raconte le château de Kafka, enfin, c'est ce que raconte Kafka tout le temps, avoir des rapports enfantins, des rapports, c'est peut-être espérer se soustraire à ce monde du pouvoir. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, il est partout, en fait. On est structuré par quelque chose qui se resserre. Mais encore une fois, il y a des brèches. Elles ne sont pas données, ces brèches. Il s'agit de les activer. Je pense qu'un certain usage de la littérature, enfin un certain usage du langage, pardon, comme dans ma jeunesse folle, comme dirait Villon, le punk relevait très politiquement pour moi, et avec une sorte de je m'en foutisme, mais qui était politique, d'un bruitisme qui venait recouvrir le sale bruit du monde par une sorte d'amateurisme génial. Je pense que, qu'il est possible, au fond, non pas de déstructurer le pouvoir, puisqu'il est le pouvoir, ni même peut-être seulement s'y soustraire, mais de faire de sa vie quelque chose qui n'est pas répertorié et répertoriable par le pouvoir. Au fond, l'idée, ce serait finalement, contrairement à ce que peut-être on essaye tous de faire, c'est-à-dire d'être reconnu, enfin, il faudrait peut-être essayer de passer inaperçu. Mais ça, c'est encore plus trop grand pour moi.
Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman d'Yves Tanret. On va marquer une première pause musicale. On va écouter un morceau de Joy Division qui s'appelle She Lost Control. Vous êtes bien sûr à Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman, en présence de Mathilde Girard qui va nous parler tout à l'heure de son livre Adrien Borel, de Valentin Rey qui a sorti dans la même collection Aventure La Longue Vie, et Yannick Hanel, donc, qui est le directeur de cette collection, mais aussi écrivain et le directeur d'une collection qui porte le même nom. On vient d'écouter Joy Division. J'ai choisi ce morceau parce qu'il est cité dans le livre de John Jefferson Selve, avec des morceaux de Cure également. Donc vous le disiez, le punk, ça a été très important pour vous. dans votre vie et dans votre, même dans votre destinée d'écrivain?
Ah ben toujours, regardez-moi. Je suis un... Comment dire, je suis... Oui, l'esprit punk, il est... Comment dire ça? Je pense que le punk, contrairement à ce qu'on dit, fait partie de l'histoire des avant-gardes. Il y a eu un très beau livre de Grael Marcus qui expliquait comme ça qu'il y a une histoire parallèle. Il y a celle des décisions géopolitiques, mais il y a une histoire parallèle. Enfin. Et Lipstick Traces. Il va jusqu'à penser que les Sex Pistols en 77, dans telle chanson, j'ai oublié laquelle, ne font que reprendre un moment insurrectionnel théorisé par Guy Debord, à peine 10 ans plus tôt. Lui-même reprenant quelque chose, enfin ouvrant le relais à Dada, et que cette histoire se poursuit. Alors, au XXe siècle, elle était véhémente, cette histoire. Aujourd'hui, où la plupart des affrontements sont contrôlés, je pense qu'être punk, c'est autre chose, surtout quand on a, je sais pas, un autre âge, disons. Je veille dans la revue Aventure, qui est aussi le reflet très simplement de mon goût personnel, puisque je suis tout seul à choisir les textes, comme dans un fanzine, vous voyez. Je veille à ce qu'il y ait le plus possible de textes qui portent aussi sur ça. Moi, j'ai toujours bien aimé qu'on commente, comme Valentin parlait de Rabin tout à l'heure, comme dans le Talmud, qu'on commente une chanson de Cure, vous voyez. Dans un numéro précédent d'Aventure, il s'agissait de commenter le dernier album de Cure. Il y a des textes sur Scott Walker. Et dans ma vie, David Bowie a joué, les New York Dolls, Johnny Thunders ont joué des rôles similaires, je le dis sans provocation, enfin, rôles similaires à Marcel Proust ou à la découverte du loup des steppes de Hermann Hesse, sont des choses... qui ont créé une déflagration en moi et auxquelles je suis très fidèle toujours, encore aujourd'hui, voilà.
Valentin Rey, la musique, c'est aussi important pour vous dans votre travail d'écriture?
Par période, oui, c'est très important. Il y a des périodes où c'est plutôt le silence, en fait, qui m'occupe, et d'autres périodes où la musique prend une place, alors je dirais pas prépondérante, mais assez massive. C'est les périodes d'imagination, en fait, de création. Dans les périodes d'écriture, il y a moins de musique.
Alors c'est un numéro d'Aventure qui se distingue par des écrits de haute volée, hein, comme ceux de Nunzio Danibal sur Shen Shonagun, qui est une autrice japonaise du premier millénaire, mais aussi de Paul Peyramayu sur Rimbaud, Yannick Hanel sur Monet. Et il y a également des vraies découvertes comme Georgina Taku sur la nostalgie numérique déjà, Camille Azoumé sur la viande ou la confirmation de Julien de Kerviller avec un acte de masochisme. On pourrait aussi citer aussi Marc Becquerel sur Pasolini. Donc vous l'avez dit, vous êtes seul maître à bord, il n'y a pas de comité de rédaction, pas de comité de lecture.
On est beaucoup dans ma tête, vous savez, c'est déjà un peu la panique. Et le joyeux bordel, et le boudoir, et aussi, comme chez Valentin Rey, le grand et beau silence. Donc on essaye de se mettre d'accord. Mais plus sérieusement, je ne sais pas, cette revue a été créée comme ça il y a 2 ans, à partir d'un désir très précis qui était celui de ne pas laisser la place de Philippe Solers mort vacante. Dans une institution, j'ai bien conscience, je parlais tout à l'heure de punk, j'ai bien conscience que c'est édité aux éditions Gallimard. Mais pour moi, tout ça n'a aucune importance. Le centre, la marginalité, tout ça a volé en éclats au début du XXIe siècle. Mais donc oui, c'est une émanation d'une idée que je me fais de la littérature, idée qui n'est pas très fixe, qui est très incertaine, mais dont je sens qu'elle est partageable. Et donc... C'est à travers des conversations incessantes avec des amis, soit que ces amis sont déjà mes amis et écrivent, soit que les textes qu'on m'envoie me plaisent tellement que les gens qui les ont écrits deviennent mes amis, c'est comme ça que ça marche. Cette conversation incessante est comme un bain qui fait qu'on n'arrête pas d'écrire et de s'écrire. Il y a une petite communauté qui se forme, et puis surtout des jeunes gens, vous en avez cité beaucoup, mais il y a des gens que je n'ai jamais lus. Et je ne sais pas s'il existe beaucoup de revues aujourd'hui institutionnelles comme la mienne, comme la nôtre chez Gallimard, où des gens peuvent publier leurs premiers textes. Enfin, Laurence Capé, par exemple, je ne sais pas qui elle est, je ne l'ai jamais rencontrée, mais quand j'ai eu son texte de poésie, parce que je publie aussi de la poésie, il n'y a pas de genre, enfin, tout est hétérogène. Quand j'ai lu ça, ça a été une déflagration, là aussi. Il y a Laura Vasquez, Fanny Wallendorf, et vous citiez Camille Azoumé, c'est une femme dont je ne savais même pas qu'elle allait publier son premier roman, et encore moins que je la croisais dans les couloirs de la maison d'édition où il m'arrive de travailler, parce qu'elle est, elle lit comme ça des livres, elle fait partie de ses lecteurs de l'ombre. Mais voilà, donc ce sont les surprises de ce que c'est que d'essayer aujourd'hui de créer. Il y a des gens qui créent des festivals de littérature, de musique, ça, je me sens un peu le frère de ça. Avant, j'aurais dit que je faisais un groupe de rock, mais ce n'est plus le cas. C'est comme si j'essayais de diriger un festival. Voilà. Et donc, il y a des voix qui viennent d'elles-mêmes, d'autres qui sont en écho avec les miennes. Vous avez vu, j'ai dit au pluriel avec les miennes. Et puis, j'aime bien les dialogues. Donc, dans ce numéro, il y a effectivement ce dialogue entre Valentin Rey et John Jefferson Sell. Il y a un dialogue avec Pierre Michon, sa traductrice, parce que je crois que c'est une femme chinoise. Voilà, je trouve ça pas mal, les entretiens.
J'ai envie de rajouter un dialogue qui ressemble à un festival électro dans lequel j'avais l'habitude d'aller quand j'étais plus jeune, avec Jefferson. Ouais, c'est intéressant.
Est-ce qu'il s'agit, comme Nunzio d'Animal le suggère, de reconquérir enfin le singulier et l'universel, sachant que le plus singulier, finalement, est le plus universel, Valentin Rey?
Je vais peut-être réécouter la question.
C'était là, tu passes l'agrégation là.
Nunzio d'Animal suggère que dans cet écrit de l'aventure, qu'il faut retrouver le singulier et l'universel dont on a été dépossédé. Et il finit par affirmer que finalement, le plus singulier est le plus universel.
Ben, moi, je suis absolument d'accord avec cette affirmation. Mais là, on rentre dans le cadre de la mystique pure. Hein. C'est-à-dire que le plus singulier par excellence, celui qui n'appartient à rien, à personne, et dont tout dépend, c'est Dieu lui-même. Dans la Bible, Dieu dit, écoute Israël, le Seigneur est un. Nous, on le traduit comme ça, le Seigneur est un. Mais en fait, la bonne traduction, c'est unique, et à mon avis, la meilleure, c'est singulier. C'est d'ailleurs pour ça que quand il se choisit un peuple, il les fait ressembler à personne d'autre. Ils ont des franges, ils ont des phylactères. Personne ne voudrait ressembler à ce à quoi il les fait ressembler. Parce que justement, ils sont le peuple singulier pour un Dieu singulier. Et l'universel, c'est le fait que, comme les flocons de neige, chacun est appelé à travers cette singularité à rejoindre celui qui est tout. Donc si on rentre dans ces catégories métaphysiques du singulier et de l'universel, on est forcément dans la mystique. Alors peu importe qu'on donne à cela le nom de Dieu, ou qu'on donne à cela le nom du divin, ou peu importe, on dépasse en fait le cadre de la pure matérialité.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de Valentin Rey, de Yannick Hanel et de Mathilde Girard. Alors on l'a dit, Aventure avec un, c'est une collection, mais c'est aussi une maison d'édition, enfin une collection chez Gallimard, dont le dernier livre est Adrien Borel de Mathilde Girard. Mathilde Girard, c'est qui Adrien Borel?
Adrien Borel, c'était d'abord un psychiatre et un des premiers psychanalystes en France, qui a créé la première société psychanalytique qui s'appelait la Société psychanalytique de Paris, et qui était le psychanalyste de gens assez connus de l'époque, entre autres Georges Bataille, Michel Léris, Raymond Queneau, Colette Peignot. Peut-être à un moment où ces gens n'étaient pas, enfin c'est même pas peut-être, c'était des jeunes personnes qui n'étaient donc pas connues comme on les connaît. Et sachant que précisément un psychanalyste, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire de la notoriété, quoi, des gens. Donc voilà, je dirais ça pour commencer, de qui il est.
Comment vous est venu le désir ou la nécessité d'un tel livre?
Eh bien, chaque fois je raconte la petite histoire, je vais la re-raconter. C'est venu d'une proposition justement d'Yannick Hanel pour un, je sais pas comment on dit, c'était un colloque à Chaminadour, qui est un lieu de de littérature qui portait sur Bataille et les Ris. Et très vite, je me suis dit que c'était ce point-là, c'est-à-dire Adrien Borel comme point d'extériorité, parce que j'avais beaucoup lu, travaillé sur Bataille, les Ris, ces figures-là dont j'avais aussi envie de me défaire, et que quelqu'un comme ça qui a un rôle à la fois central et complètement... de fait satellite et dans la vie de ces personnages-là, qui me permettait aussi d'en parler ensemble, comme un lien. C'est un lien, mais c'est un lien secret. Donc, voilà, il y avait beaucoup de, comment dire, d'entrées possibles, beaucoup de place.
L'actualité politique, elle a joué dans ce projet ?
Oui, même si c'était le début, donc j'ai pas tout à fait fini, ça a commencé par une conférence à Chaminadour, et après j'ai augmenté ce livre. Très vite j'ai eu envie d'en faire un livre, enfin j'ai augmenté la conférence pour faire un livre, et c'était en 2022 ou 2023. Je dis pas que le contexte n'était pas le même, parce qu'en fait, même lors de ces journées, je me souviens qu'il y avait aussi une intervention de Stéphane Habib qui avait parlé qui est un camarade psychanalyste et qui écrit aussi en philosophie, philosophe psychanalyste, qui avait parlé du fascisme à partir de la pensée de Georges Bataille. Donc on était quand même à un moment où effectivement, un peu moins qu'aujourd'hui, mais où quand même l'héritage des années 30 et certains textes un peu insurrectionnels de ces années-là et théorique et poétique nous revenait un peu à charge, et on se disait comment on peut les lire et les relire à l'aune de ce qu'on peut faire aujourd'hui, de ce qu'on peut faire comme écrivain, de ce qu'on peut faire comme philosophe, comme psychanalyste. Voilà.
Il faut rappeler que la psychanalyse, quand elle est apparue, elle est née dans des périodes politiques très troublées, où se montaient simultanément des grandes aspirations révolutionnaires, mais aussi fascistes. Donc, elle est au cœur de cette double tentation. Et vous en rendez compte dans votre livre.
Je pense que... ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de m'en être aperçu d'avoir... Il y a des choses dans la vie, on les traverse sans exactement savoir ce qu'on vit, ce qu'on sent. Et je pense précisément Bataille, voilà, c'était une thèse que j'ai faite il y a plus de 10 ans. En même temps, je commençais à être psychanalyste. En même temps, les questions politiques, révolutionnaires m'intéressaient aussi. Mais comme si tout n'était pas à maturité, et que ce livre est le trajet de la composition de tous ces éléments qui sont ceux avec lesquels je travaille, de fait, où je vis, ou que j'éprouve, etc., mais que j'avais un peu traversé comme sans les sentir. Alors c'est sûr qu'à un moment, l'époque actuelle ait des résonances, et c'est là où je pense qu'il faut... c'est compliqué toujours cette question d'époque, et comment la littérature parle de l'époque tout en... je ne vais pas réussir à finir ma phrase. En tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'aujourd'hui qui a permis de rendre mature, en tout cas pour moi, et je pense dans l'écriture de ce texte, quelque chose de très clair de cette relation entre les années 30 et aujourd'hui, entre ce qu'on a à... des questions qu'on peut avoir à élaborer en tant qu'analyste, mais aussi des différences. On ne peut pas comparer le fascisme auquel on a affaire, la société qu'on vit aujourd'hui, avec celle des années 30. Mais la psychanalyse était l'endroit par lequel faire passer des choses qui restent quand même comme des substrats, un peu.
Dans votre livre, vous dites les hommes, les femmes, comme si ces catégories allaient de soi. Est-ce qu'il n'y a que les hommes qui ont des rages d'autorité ?
D'abord, effectivement, c'est une question que je me suis posée, c'est-à-dire, c'est très genré, mais parce que c'est une époque qui est hyper genrée, et que j'avais envie de donner un... comment dire, j'ai pas donné le contre-champ de tout ce dont il s'agit sur le fait que les femmes ont une place qui est à la fois très privilégiée et en même temps sacrifiée, quoi. Enfin, sacrifiée parce que c'est elles qui apprennent aux hommes beaucoup de choses à ce moment-là, c'est elles qui les guident. Et j'ai construit ce récit aussi autour de ma stupéfaction aussi rétrospective de la place qui était faite aux femmes dans les débuts de la psychanalyse et de la psychiatrie, sans forcément dire tout de suite c'est mal, parce que je pense que ça s'impose et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais pour qu'on sente que quelque chose ne va pas, il faut que le lecteur fasse son expérience, quoi, aussi de ça. Et bien sûr que les femmes, enfin, je ne sais pas exactement si je comprends votre question, mais c'est sur la colère des hommes et la colère...
La rage d'autorité, l'aspiration à la domination, est-ce que c'est typiquement masculin ?
En l'occurrence, dans l'histoire que je raconte, soit on peut dire que c'est le début d'un rapport de force, effectivement. Quant aux patientes et aux médecins, c'est un rapport paradoxal, mais en tout cas, c'est des situations, on peut dire, de pouvoir avéré dans lesquelles c'est quand même plutôt pas les femmes qui l'ont, quoi. Mais par exemple, le surréalisme est un moment de visibilité de pas mal de femmes artistes et qui... Bon, dont on peut dire que c'est un moment aussi de féminisme d'une certaine façon, enfin pas du tout de féminisme, enfin de valorisation, mais tout ça est quand même entre les mains des hommes, quoi. Je sais pas si je réponds exactement à votre question.
Vous êtes psychanalyste, vous êtes écrivaine. Qu'ont en commun la psychanalyse et la littérature ?
Je vais dire rien.
Vous pouvez développer un tout petit peu. Pour vous, hein, personnellement, ouais. Dans vos deux pratiques.
Si j'y pensais, c'est faux. Donc rien, je dirais un peu intellectuellement. Mais quelque chose quand même qui a à voir avec ce qui me venait après avoir entendu, avoir entendu tous les deux Valentin et Yannick, c'est-à-dire un peu de l'inespéré ou de l'inouï ou du totalement nouveau qui passe ou par le langage ou par des faits qui arrivent dans cette situation de la séance qui font que quoi qu'il arrive il y a des lignes chez les êtres qui traversent, qui vont absolument leur chemin en toute souveraineté, en toute autonomie, et des mouvements qui sont contraires au mouvement général, quoi. Effectivement, mouvement général ou social ou politique dans lequel les choses vont. Donc moi, je dirais que je tiens pas forcément la littérature et la psychanalyse indemne de ça, parce que je pense qu'on dépend aussi en grande partie. Enfin, moi, je me sens dépendre de la société, voulant pas forcément m'en détacher. Donc là, je peux dire la psychanalyse et la littérature pour me sauver, mais je veux pas me sauver toute seule, donc on peut pas, on se sauve jamais seul non plus, quoi. En tout cas, voilà, le lien pour moi, il est à cet endroit-là, effectivement, de émergence de quelque chose qui vraiment n'existe nulle part ailleurs que dans cette hétérotopie, psychique, affective qu'est l'analyse et de langage aussi, et dans la littérature, quoi. Et qui sont quand même des choses qui donnent beaucoup de force, quoi, et d'espoir, en effet, parce qu'il y a des choses qui s'inventent complètement, quoi.
On l'a dit, la psychanalyse est arrivée à une période très, très spécifique, où on a vu la religion s'effacer progressivement. On a vu le prêtre être remplacé par le psychanalyste, la consultation payante a remplacé la confession gratuite. Valentin, vous pensez quoi de ce remplacement de la religion par la psychanalyse ?
je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement un remplacement. Il y a peut-être une superposition, je dirais. On a toujours pu aller chez le prêtre et chez le psychanalyste en même temps. Ce n'est pas deux services similaires. Moi, je pense de toute façon qu'il y a une soif inextinguible, j'ai envie de dire, de quelque chose de plus profond, de connaissance de soi-même. Vous évoquiez le singulier, alors on l'élevait à l'universel tout à l'heure, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus propre en nous. Et comment connaître cette personne, si ce n'est en investiguant son histoire? Alors le meilleur moyen, évidemment, c'est le langage. La psychanalyse permet justement, grâce au langage, de rentrer en connaissance avec soi-même, rentrer en conversation avec soi-même, grâce au psychanalyste. Et puis le prêtre, il nous permet aussi de rentrer en connaissance avec nous-mêmes, mais à travers le plus singulier et le plus universel qu'est Dieu. Alors j'imagine que vous faisiez référence au prêtre catholique, parce que c'est là où on donne la confession.
Tout à fait.
Donc c'est deux choses qui sont complémentaires à mon sens. Et je vois pas aujourd'hui, justement, où nous sommes à peu près d'un siècle de psychanalyse et plus de 2000 ans de catholicisme, où on devrait remplacer l'un par l'autre, non? Je pense que si on veut partir en fait en quête de soi-même, pour pouvoir tout simplement être présent avec les autres, être quelqu'un pour les autres en fait, être quelqu'un d'abord et être quelqu'un pour les autres, il faut partir il faut se servir de tout ce qui est à disposition, aussi bien les vérités qui ont été mises au jour dans le domaine religieux que dans le domaine psychanalytique, scientifique, et puis les autres aires culturelles aussi. C'est très important aujourd'hui de faire ce travail, d'aller voir comment on a pensé justement cette quête-là, en Inde, en Chine. On a la possibilité d'avoir accès à des textes qui auparavant étaient soit dans des grottes, soit dans des monastères, soit, enfin, que personne ne pouvait consulter. Aujourd'hui, tout est disponible. Il faut juste en fait se donner le temps de rentrer dans les textes et de ne pas se laisser avaler par les écrans. Si on fait ce travail-là, les choses se déploient naturellement, je pense.
Yannick, puisque vous êtes l'éditeur de Mathilde, quel rapport vous faites, vous, entre la littérature et la psychanalyse?
Alors pour moi, c'est je prendrai un autre point de vue que celui de Mathilde. Peut-être, parfois je me dis, et je ne suis pas psychanalyste du tout, et je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans un cabinet, mais je dirais que c'est la même chose. Je veux dire par là que pour moi, la littérature est la tentative éperdue d'écouter le langage, le faire survenir. Et on sait tous, il n'y a même pas eu besoin de Nietzsche pour ça, qu'on croit être conscient, mais que la conscience est une infime partie de la vie, et que donc l'inconscient est à déchiffrer, au fond, et à écouter. Et l'inconscient est structuré comme un langage, enfin, Lacan l'a dit, ça me paraît aujourd'hui incontestable. Donc cette manière qu'on a d'être, quand on est écrivain ou psychanalyste, face à cette chose étonnante qu'est le langage, chez l'autre, et même quand on est écrivain, c'est chez l'autre, l'autre qu'on est éventuellement ou pas, pour moi ça revient peut-être à la même chose. Quand j'ai reçu le livre de Mathilde, que je trouve absolument passionnant et très limpide, enfin, sur des questions abruptes, il y a eu trois ou quatre choses, comme ça, si j'ai deux minutes pour développer, qui m'ont sauté aux yeux, à savoir que on est dans le cabinet, on est constamment dans ce lieu étrange qui est le cabinet du psychanalyste, où viennent des gens, mais où ces gens sont étrangement absents au fond. C'est-à-dire je ne sais pas si je dis une bêtise, mais non, quelque chose s'efface. Et c'est pas qu'on voit moins bien, c'est que grâce à cette absence qui est organisée littérairement, pour le coup, par Mathilde dans ce cabinet, le temps lui-même, dont on parlait tout à l'heure, et peut-être l'époque, très poreuse, se met à parler. La deuxième chose, c'est la question du fascisme, effectivement, vous en avez parlé. Et dans un texte que Mathilde Girard publie dans ce numéro-là d'Aventure, une lettre sur le fascisme, tu as cette formule pour reparler du rapport entre masculin et fascisme, qui pour moi est évident. Enfin, j'ai jamais connu de femmes fascistes, mais j'ai connu, enfin, je sais pas que je les connais, mais pour moi à peu près tous les fascistes sont des hommes. Et eh bien, tu as cette formule, tu dis le fascisme est la poubelle du phallus. trouvais ça tout à fait éclairant. Je n'avais pas dormi de la nuit, je me suis dit bien. Et cette poubelle, c'est aussi ce qui se vide, me semble-t-il, chez le psychanalyste, dans le cabinet lui-même. Et cette poubelle de l'inconscient, cette poubelle, notre merde au fond permanente, c'est aussi avec ça qu'on écrit. Et c'est là qu'on va chercher de l'or au milieu. Bon, voilà, il y a ça. La troisième chose, et c'était très très important, me semble-t-il, dans ce livre de Mathilde, ça m'a sauté aux yeux, c'est que en tant que type qui a affaire avec sa poubelle de phallus, c'est-à-dire moi-même, et qui fantasme, et qui pense, et qui croit qu'il pense, et qui n'y comprend rien au fond, je me rends bien compte que j'idéalise les femmes. Je me rends bien compte que je fais d'elles des princesses, des déesses, des reines, et qu'au fond, il y a eu des gens avant moi que j'aime, dont Bataille, et tu en parlais, dont Léris, qui ont fait des femmes des folles, admirables. Et que dans ce geste de dire « cette femme est folle et géniale », il y avait déjà quelque chose, alors peut-être pas de fasciste, mais qui est très peu questionné par les admirateurs de Bataille dont je suis, ou de Breton, mais qui est une emprise, qui est aujourd'hui, on dirait, une forme de toxicité, de vanter une femme à ce point-là en faisant d'elle la grande folle géniale. C'était un geste masculin très critiquable. Et dans ton livre, discrètement, je dirais, sans mettre ça en avant, tu mets à plat, comme ça, pulsionnellement, l'idée que même la psychanalyse faite par des hommes, interrogeant des hommes sur leurs désirs, perpétue cette mythologisation et donc cette réification des femmes. Et c'était d'autant plus intéressant que Adrien Borel, donc quand même un psychanalyste très étonnant, enfin audacieux, psychanalyser en même temps Bataille, mais aussi son amante, Colette Peignot, qu'on a appelée Laure. Enfin. Et bon, tout ça est tout à fait broussailleux, indémêlable et tout à fait passionnant. Dans le livre de Mathilde, ces choses-là sont redites, sont mises comme ça à disposition aujourd'hui.
Mathilde, Gérard, vous réagissez à ce que vient de dire Yannick?
Presque j'étais émue en écoutant Yannick là, parce que je pense que c'est des choses assez profondes que j'ai eu envie de vraiment faire sentir dans ce texte, je dirais par les preuves, quoi. Et que c'est aussi des questions de vie qu'on se pose, enfin je veux dire, c'est nos vies, quoi, dont on parle, c'est pas dans ce qu'on écrit. Donc c'est les liens qu'on a entre hommes et femmes, aux âges qu'on a, et au fait que, je pense, pour moi, c'est important que des hommes de ma génération reconnaissent, des hommes et des amis aussi, les hommes qu'ils ont été, un truc comme ça. et moi, pour... Oui, enfin, je sais pas, dans une forme d'intelligence de ce qu'on peut s'apprendre. Parce que ces rôles, on les joue, quoi. On les a joués, le rôle de l'amante folle, le rôle de l'intellectuel inspiré. C'est nos vies aussi. Donc, et on a besoin de travailler maintenant avancer. Je veux dire que cette époque, justement, fasciste et où les questions, toutes ces questions-là se posent jusque dans nos vies, quoi, on puisse les traverser et en apprendre des...
Vous êtes toujours sur Aligre FM, 93.1, dans La vie est un roman, en présence de Mathilde Girard, Valentin Rey et Yannick Hennel. Pour revenir à Bataille, est-ce que tout le drame de sa vie ne vient-il pas du fait qu'il a confondu sacrifice et offrande, gratuité et gratitude ? Si tout sacré suppose en effet un sacrifice, tout sacrifice n'ouvre pas nécessairement sur l'infini. Qui veut répondre à cette question ?
On va commencer un colloque, là, non ? Ouais. Je t'en prie, tu as écrit un livre aussi sur Bataille, c'est l'art de la faute.
Il y a un goût du sacrifice chez lui, du sacrificiel, et d'autre il pense et il imagine que ça va lui donner accès à un infini ou à un sacré. Mais c'est pas forcément comme ça que ça se passe, c'est pas automatique, c'est pas parce qu'on sacrifie quelque chose qu'on rentre dans le sacré.
Non, vas-y.
Oh, si je peux me permettre, tu as un peu plus de temps. Je pense que la question est géniale, hein. Je vais la noter pour me la reposer tranquillement chez moi tout à l'heure ou dans le métro. Mais je pense que Bataille, en vivant sacrificiellement tous ses rapports, et je rappelle qu'il avait également fondé une société secrète, Acéphale, dont au fond il semblerait obscurément qu'il avait projeté d'en être le sacrifié, c'est-à-dire finalement que les autres le tuent. Bon. En voulant augmenter, si je puis dire, en intensité tous les rapports par cette chose qu'on appelle le sacrifice, qui là, en l'occurrence, a tenté de remplacer toute religion, il faisait de lui-même un dieu. D'où le fait que la situation était bloquée, c'est-à-dire que s'il est le dieu, qu'est-ce qu'on va lui offrir ? Enfin, le sacrifice, le don, l'offrande deviennent ici quelque chose qui peut créer soit un suicide, soit une œuvre insupportable. Je sais par exemple que Roland Barthes, je suis retombé là-dessus il n'y a pas longtemps dans Le Plaisir du texte, dit que pour lui, ça n'est pas possible de lire Georges Bataille. Enfin, c'est d'une violence inacceptable, pour les raisons que vous venez de dire, à savoir qu'on est dans une dimension qui est celle du tragique, au fond, qui est celle de la tragédie. Je pense que Bataille, par exacerbation personnelle, j'irais même jusqu'à dire par pathologie aussi, mais la pathologie et la littérature, ça va avoir, évidemment, enfin, c'est très compliqué. Par pathologie, a voulu faire de lui la proie, comment dire, le couteau et la blessure, voilà. Mais ça fait écrire, ça fait penser, c'est une solution, en l'occurrence pas la mienne, hein, mais je pense pas que ce soit celle ni de Valentin ni de Mathilde, mais ça a eu un effet génial, enfin, parce que je crois savoir, et il y a des gens qui me l'ont dit, qui l'ont connu, Solers m'a dit, c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu un génie, même quand il se taisait. Georges Bataille.
Voilà. Mathilde Girard, pensez quoi de la réponse de Yannick Hanel ?
Ouais, je pense que je suis d'accord dans le fait qu'il y a une aporie, comment dire, c'est une sorte d'aporie du chef, justement, une aporie sacrificielle qui, enfin, comment dire ça, on peut pas... c'est intéressant parce que là, on peut dire justement que la psychanalyse, comme la littérature, sont des opérations un peu de destitution, c'est-à-dire c'est les opérations par lesquelles quelque chose l'autorité en soi se laisse un peu subjuguer, quoi, enfin qu'on peut y porter atteinte. Je pense que c'est ça que cherchait Bataille, mais effectivement, en faisant ça, forcément, il se mettait en position de dieu et de souverain, et qu'on perd toujours à un moment. En fait, on attend toujours un public, c'est-à-dire... on sacrifie ma condition d'être quand même qu'il y ait du public, quoi.
Mais c'est un chef qui veut perdre la tête. Et je fais le jeu de mots exprès, le couvre-chef, un chef dont l'objet est de perdre sa tête. C'est une horreur du pouvoir aussi.
Valentin Rey, vous voulez réagir à cet échange ?
Oui. Moi, quand je vous entends, je pense à Roberto Calasso, en fait, qui a... un écrivain qui a beaucoup réfléchi justement au rapport entre la littérature, le sacré, le sacrifice. Et dans sa pensée émerge la figure de l'écrivain sacrificateur, j'ai envie de dire. Alors, il peut se sacrifier lui-même, c'est souvent d'ailleurs le cas, ou il peut sacrifier d'autres choses, mais il opère de toute façon dans un moment du temps où cette position est devenue possible et à la fois nécessaire, parce qu'il y a un recul... du religieux, il y a un recul de la compréhension mystique et de l'intime spirituel, j'ai envie de dire, et que pour mettre en rapport en fait le nous que vous évoquiez tout à l'heure, la société hein, qui désormais s'adore elle-même en fait comme un dieu, qui a compris à travers la sociologie en fait, qui a affirmé à travers la sociologie que il n'y avait pas de dieu, mais en fait qu'il y avait la société qui s'adorait sous les masques du dieu qu'elle s'était choisie, et que donc désormais elle avait pour vocation de s'adorer librement en connaissance d'elle-même. Et donc le reflux des zones qui étaient atteintes par le sacré, qu'on pouvait, déterminer comme étant un lieu métaphysique, désormais la charge en était donnée à l'écrivain de rendre possible le fait de rejoindre ce lieu pour la société à travers les œuvres qui seraient données. Mais ça, c'est au prix d'un coût extraordinaire. On peut penser à Benjamin, par exemple, à Kafka, des gens qui ont payé au prix de leur vie. Le fait d'avoir été non seulement des visionnaires, mais en plus des passeurs. C'est-à-dire que l'énergie, la force spirituelle qui était donnée par les rites, hein, tout simplement, à travers la société, désormais passait avec eux. Et cette énergie est trop puissante, et c'est pour ça, évidemment, que ça les détruit, ça les brûle. Donc Bataille, d'une certaine manière, a opéré un geste similaire, à mon sens.
Merci beaucoup Valentin Rey, merci beaucoup Mathilde Girard, merci Yannick Hanel d'être venu nous parler des aventures, la revue et la collection. Pour notre part, on va se retrouver la semaine prochaine avec une biographie de Huysmans écrite par Agnès Michaud qui vient d'obtenir le Goncourt de la biographie. Nous sommes une radio libre indépendante. Si vous voulez nous soutenir dans notre effort et dans notre combat, vous pouvez nous aider. Vous allez sur le site dans la rubrique Appel aux dons et vous faites un don, c'est déductible d'impôts et nous, ça nous permet de continuer et d'avancer. Yves, cette émission, elle est encore pour toi. À très bientôt.